Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode du podcast hors-série GDA pour galère d'accompagnant. C'est un hors-série que je sors de temps en temps, plusieurs fois par an, dont 5 épisodes sont déjà sortis en février 2022. Tu peux tous les retrouver sur les différentes plateformes d'écoute de podcast ou via les liens qui sont dans la description. Donc GDA pour galère d'accompagnant. En fait, ce hors-série du podcast, ce sont des épisodes qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement, aux professionnels de la relation d'aide, comme on dit souvent, que tu sois coach, formateur, consultant, consultante, psy, thérapeute en tout genre, thérapeute énergétique, thérapeute holistique, etc., prof de yoga, machin, travailleur social, qu'est-ce que j'ai pas dit, sophrologue, enfin bref, t'as compris l'idée. En tout cas, à partir du moment où tu accompagnes des humains, où tu es un professionnel de la relation d'aide, ces épisodes sont faits pour toi. Dans ces épisodes, plus ou moins courts, hein, généralement ça dure à peu près un quart d'heure, j'aborde à chaque fois une problématique que rencontrent souvent les professionnels de l'accompagnement. Donc comme je te le disais, il y a 5 épisodes qui sont déjà sortis en février 2022. Et là, nous attaquons une nouvelle semaine du podcast hors-série GDA. Et donc, un épisode va sortir tous les jours cette semaine. Donc, il y aura de nouveau 5 épisodes tous les matins à 7h et des brouettes du matin sur les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on va attaquer un premier sujet qui est de gérer un client ambivalent ou impatient. Hein. Généralement, si tu n'as pas suivi les 5 derniers épisodes, je te le précise, je dirais bénéficiaire. Ok, pour regrouper là-dedans ceux qui ont des clients, ceux qui ont des patients, peu importe comment vous les appelez. Donc, souvent, je dirais bénéficiaire. Ce podcast hors série, évidemment, il arrive aussi dans le contexte de ma formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante », justement. La promo 3 vient de se terminer là en juin et la promo 4 attaque en septembre 2022, le 19 septembre précisément 2022, pour se terminer précisément le 19 décembre 2022. C'est tombé vraiment pile poil 19 septembre, 19 décembre. Toutes les infos sont évidemment dans la description, si tu veux en savoir plus sur le programme, sur la formation, qu'est-ce qu'on fait, qu'en ont pensé les anciens, blablabla. Et surtout, le lien si tu souhaites réserver ton appel gratuit de 30 minutes pour que voilà, tu puisses me poser des questions et qu'on voit si la formation elle est faite pour toi. C'est une formation qui dure 3 mois, du coup, de fait, hein, avec une partie en ligne et une partie via Zoom où on est tous ensemble. C'est la 4e promo qui attaque là et c'est vraiment un programme qui a vocation d'accompagner des accompagnants qui sont en train de se lancer ou qui sont déjà lancés, qui veulent travailler sur leur posture. Okay, là, le but, c'est vraiment de travailler sur sa posture d'accompagnant. C'est de prendre en charge toutes les problématiques, même s'il y a quand même de l'outillage. Hein, je vous donne plein d'outils dans la formation, mais le gros, c'est cette question de la posture. Parce que ça, on le sait, c'est les études qui le montrent. 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, ça se joue dans l'alliance concrète avec le bénéficiaire. Donc le plus important, c'est les relances, c'est la posture, c'est savoir analyser la demande, c'est savoir gérer le genre de situation dont je te parle dans les épisodes GDA, comme aujourd'hui par exemple, un client ambivalent, etc. Les outils, c'est secondaire. Hein, précisément, on dit que c'est environ, les études montrent environ 8% de la réussite du travail. Bref, tous les liens sont dans la description si tu veux aller voir. Ce matin, je vais te parler de comment on fait pour gérer un bénéficiaire qui est ambivalent. Alors, deux choses à dire. J'ai déjà, dans les GDA précédents, fait un épisode sur « Mon client ne sait pas ce qu'il veut ». Ok, c'était le tout premier épisode GDA, d'ailleurs. Donc, tu l'as dans la description. Tu peux aussi aller l'écouter parce qu'il est quand même assez lié à ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'avais fait un épisode du podcast normal, en format long, sur réussir l'appel découvert. Je te mets le lien dans la description. Donc là, bon, c'est beaucoup plus long et on va beaucoup plus en détail sur la question de l'appel découvert. C'est assez lié à ça parce que un bénéficiaire ambivalent, tu dois pouvoir le cerner tout de suite. C'est-à-dire, dès l'appel découverte ou la séance préliminaire, ou peu importe la forme que ça prend dans ton activité, tu dois pouvoir le cerner rapidement. Des fois, on ne peut pas toujours, hein. Des fois, on s'en rend compte pendant l'accompagnement. Mais dans un monde idéal, plus tôt tu cernes l'ambivalence, mieux tu vas être, entre guillemets, armé pour la défaire ou pour l'accompagner. Concrètement, un bénéficiaire ambivalent, on pourrait le résumer sur la forme de « je veux que ça change dans ma vie, mais je veux rien changer ». Là, on est vraiment dans l'incarnation même de l'ambivalence. C'est le bénéficiaire qui t'appelle en appel découverte ou séance préliminaire ou je ne sais quoi, voilà, et qui te dit que, par exemple, il rencontre une problématique au travail. Je sais pas, moi, ça se passe pas bien au boulot. Tu vois, il en a ras-le-bol, il veut démissionner. Enfin, il en a ras-le-bol de son boulot, mais il veut pas démissionner. Il veut pas changer d'entreprise, il veut pas changer de poste, il veut pas en parler à son patron. Bref, je veux que ça change, mais je veux rien changer. Ça, généralement, c'est un peu le bénéficiaire redouté hein, par les accompagnants et accompagnantes que j'ai formés là dans les promos précédentes, parce que c'est compliqué, quoi, parce qu'il y a une réelle demande hein, de changer la problématique professionnelle, amoureuse ou quoi qui t'emmène, mais il va tout rejeter, ou alors ça va se voir pendant l'accompagnement, sous la forme de quelqu'un qui s'engage puis se désengage de l'accompagnement, qui est à fond pendant 3 semaines, puis qui après zappe, vient pas aux séances, annule à la dernière minute, c'est quelqu'un qui fait pas forcément le travail interséance, bref, il y a de l'ambivalence. C'est, je veux que ça change, mais moi je veux rien changer. Donc il peut y avoir, pas toujours, mais il peut y avoir aussi une forme de déresponsabilisation, ou en tout cas on peut percevoir une forme de déresponsabilisation dans « je veux que ça change, mais moi je veux rien changer », sous-entendu « fais ton job, quoi. C'est toi l'accompagnant, fais ton job ». Bon. Donc, souvent c'est des profils qui sont pas simples en tant qu'accompagnant, parce que, a priori, vous aurez une réelle volonté de les accompagner, de les aider, mais il y a ce phénomène d'engagement-désengagement, il y a aussi la crainte, entre guillemets, de finir avec quelqu'un qui finalement est mécontent de l'accompagnement. Parce que il va peut-être pas aller jusqu'à ce qu'il voulait, à son point B, hein, finalement. Dans sa demande, il y avait un point A, voilà où j'en suis aujourd'hui, et un point B, voilà où je veux aller demain. Il va peut-être pas l'atteindre, ce point B, et il pourra peut-être être tenté de dire « Ah, mais bon, t'étais là pour m'aider, et puis finalement, j'ai pas atteint les résultats que je voulais atteindre. » Et oui, mais en même temps, si tu veux rien changer, ça va être compliqué. Bref. Donc, tu vois bien que dans ce genre de profil, plus tu t'en seras rendu compte tôt et plus tu l'auras pris en charge tôt, cette ambivalence, moins tu vas te retrouver en kikiné, pour être poli, parce que si ça traîne, bah effectivement, le risque, c'est de se retrouver avec un accompagnement qui n'est pas, entre guillemets, terminé, en tout cas où le bénéficiaire n'a pas atteint son point B, et où il va te dire « je suis pas content ». Alors par rapport à ça, déjà, je tiens juste à rappeler, je fais une mini parenthèse, qu'en tant que professionnel de l'accompagnement de la relation d'aide, tu es en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Et que le bénéficiaire également est en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Bref, c'était juste la petite parenthèse, petit rappel qui valait le coup d'être fait. L'ambivalence, tu peux l'apercevoir du coup dès l'appel découverte, j'ai fait tout l'épisode dessus, je te laisse le réécouter si tu veux. Si tu t'en rends compte, entre guillemets, tout de suite. Alors là, ça relève de toutes les questions et de toute la méthodologie de l'analyse de la demande dont je te parle dans le podcast le plus long. Et bien sûr, pendant la formation, on y passe une journée toute entière, je vous casse les pieds avec ça, avec l'analyse de la demande, très important. Donc là, ça relève de cette méthodologie-là, c'est-à-dire je perçois de l'ambivalence, je veux que ça change au travail, mais moi, je veux rien changer au travail. Ok, bon, alors du coup, comment tu espères que les choses prennent une autre direction si toi, tu ne participes pas à ce changement ? Par exemple, tu vois. Bref, toutes les questions qu'on a dans la méthodologie de l'analyse de la demande pour amener le bénéficiaire à une demande qui sera plus claire et arriver à lui faire formuler concrètement « voilà où j'en suis aujourd'hui, mon point A, je m'ennuie, exemple, hein, je m'ennuie dans mon travail, A, point B, j'ai soit j'ai changé de boulot, soit j'ai lancé un nouveau projet au sein même de mon entreprise, ou... j'ai développé ma force de curiosité pour trouver de l'intérêt au travail, tu vois, par exemple. Bon, bref, ok, là, il y a un point B qui est clair, etc. Et là, c'est parfait. Et à ce moment-là, on a dépassé l'ambivalence parce que tu as réussi à réenclencher la capacité d'action et de résolution de problèmes du bénéficiaire. Premier scénario. Deuxième scénario, on se rend compte de l'ambivalence pendant l'accompagnement. Soit parce qu'on s'en est pas rendu compte à l'appel découverte, soit parce que peut-être qu'à l'appel découverte, c'était pas si prégnant que ça, ou c'était pas là, et que l'ambivalence, elle a été trigger par autre chose. Okay ? Peut-être un exercice que tu as fait, peut-être qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose dans la vie du bénéficiaire, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons pour que l'ambivalence, tu l'aperçoives plus tard. Bon, sauf que maintenant, l'accompagnement, il est lancé, et on y est. Donc, on a un bénéficiaire qui veut que ça change, mais qui fait pas le travail interséance, qui arrive aux séances en retard, qui s'investit pas vraiment dans l'accompagnement, mais pourtant, il veut que ça change. Donc là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Il veut que ça change, mais il fait pas le travail interséance, par exemple. Est-ce qu'il y a, par exemple, de l'évitement émotionnel ? Ça pourrait être une bonne hypothèse de travail, tu vois. C'est-à-dire que le bénéficiaire, il a vraiment envie qu'il y ait du changement, il croit à ton accompagnement, il est convaincu du truc, c'est pas le problème, mais dès qu'il rentre, entre guillemets, à la maison ou qu'il coupe l'ordinateur si tu fais tes séances en visio, et qu'il se retrouve, lui, entre guillemets, tout seul, face à son cahier d'exercice, à devoir faire ses exercices d'interséance, paf, là, il y a un truc qui bloque. Donc, on va partir du principe que le bénéficiaire n'est pas une tête à claque, hein, parce qu'on ne va pas considérer les bénéficiaires comme ça. Donc, il y a forcément une raison pour laquelle il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qui génère cette ambivalence-là? Est-ce que, par exemple, il y a de l'évitement émotionnel? Et que, par exemple, je dis n'importe quoi, la demande de l'accompagnement génère beaucoup de pression, et que, du coup, le fait de faire le travail interséance, à la fois, ça peut générer une émotion de joie, d'excitation, parce que le bénéficiaire a la sensation d'avancer, mais peut-être que ça peut aussi, dans le même temps, et dans le même individu, générer de la peur. Parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de à quoi ça va ressembler quand j'aurai démissionné, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, ça fout le bazar dans la sphère psychique, parce qu'on a de la joie, de la peur, oh là là, je sais plus trop ce qui se passe. Il va rentrer en évitement émotionnel, et j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, une des options possibles de l'évitement émotionnel, c'est le non-comportement, c'est la procrastination, clac, je ferme le cahier, et je m'en occupe plus. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un scénario qui explique et qui justifie le fait que ton bénéficiaire, il présente de l'ambivalence dans le comportement et en l'occurrence dans l'accompagnement que vous faites ensemble. Quoi qu'il en soit, quand on a un bénéficiaire qui est dans cette thématique de l'ambivalence, il y a plein de choses, hein, pour les profils les plus thérapeutiques d'entre vous, intéressez-vous à l'ambivalence. Est-ce que, par exemple, le système d'attachement que connaît la personne pourrait renvoyer à ça? Je veux dire, très probablement, l'ambivalence, c'est quelque chose que le bénéficiaire, il connaît déjà. Donc, il a dû l'apprendre quelque part, hein, ça lui est pas tombé du ciel. Donc, bon, pour les profils les plus thérapeutiques d'entre vous, évidemment, on peut s'intéresser aussi à ça. Elle vient d'où, cette ambivalence? Comment elle s'est construite, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, quand on se retrouve avec un profil ambivalent, pour moi, il y a deux choses. Déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière l'ambivalence, considérer un peu que cette ambivalence, c'est un symptôme, et que du coup, derrière ça, il doit y avoir des stratégies d'évitement émotionnel d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, il y a le fait de remettre en responsabilité son bénéficiaire, ok? Est-ce que le locus est bien internalisé? Est-ce que le locus de causalité est bien internalisé? C'est-à-dire, en français, est-ce que mon bénéficiaire a conscience et est en phase avec le fait qu'il est responsable de son accompagnement, qu'il est responsable de sa progression dans l'accompagnement, ce qui ne veut pas dire que toi, tu ne l'es pas du tout, hein, mais que la responsabilité est partagée, bien entendu, et qu'en tout cas, il a sa part à prendre là-dedans, et qu'il est la cause de ses actions. Ok, le locus de causalité, à quoi j'attribue la cause des événements qui m'arrivent, soit je suis très internalisé et je considère que c'est tout dû à moi, soit c'est très externalisé et je considère que c'est dû à l'extérieur. Évidemment, on veut un équilibre, mais là, en l'occurrence, dans l'accompagnement, on veut qu'il y ait plutôt un locus internalisé. Pas 2000% internalisé, parce que toi, t'as ta part aussi, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un minimum d'internalisation. Donc, il peut y avoir une thématique aussi là-dessus à travailler éventuellement sur le locus. Un dernier truc qui me vient en tête, c'est la question du focus attentionnel, c'est-à-dire où est-ce que le bénéficiaire focus son attention et où est-ce que moi, je fais focus l'attention du bénéficiaire. Si vous entretenez tous les deux, d'une manière ou d'une autre, un focus attentionnel sur ce qui fonctionne pas bien chez le bénéficiaire ou sur ce qui fonctionne pas bien dans l'accompagnement, c'est un peu ce qui se passe avec l'ambivalence, hein, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'ambivalence, et puis le professionnel de l'accompagnement, il va commencer à focaliser là-dessus. Donc, le travail de ta séance, il a pas été fait, la séance, elle a été loupée, il y a pas d'engagement, etc. Donc, du coup, on entretient à la fois chez le professionnel et à la fois chez le bénéficiaire un focus attentionnel sur ce qui ne fonctionne pas bien. Donc forcément, je vais focaliser sur ce qui va pas bien, donc ça va faire monter les émotions négatives, sur lesquelles je peux avoir tendance à rentrer en évitement, donc du coup je peux avoir tendance à rentrer en procrastination, blablabla, et du coup c'est le cercle vicieux. Donc on peut aussi, ça peut être une option, un axe de travail, observer cette question du focus attentionnel et voir un peu comment le bénéficiaire dispatche son focus attentionnel et comment moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, je dispatche mon focus attentionnel. Parce que si moi-même, en tant que professionnel, je focus mon attention sur ce qui ne fonctionne pas chez le bénéficiaire et que du coup, de fait, je l'emmène à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas chez lui, bon, bah là, si tu veux, on n'est pas rendu pour réveiller, entre guillemets, sa capacité d'action et sa capacité de résolution de problèmes. Donc, sur l'ambivalence, il va vraiment y avoir ça, hein. Il peut y avoir plusieurs axes. Dans tous les cas, ce que je te conseille en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est déjà qu'est-ce qui se passe derrière. Déjà, hein, on va partir du principe qu'il n'y a pas de raison, a priori, que le bénéficiaire ait envie de cet accompagnement, qu'il ait signé, que voilà, il a payé, il est venu, etc. Et que là, bam, il fait pas le travail d'intercédence, etc. Donc il doit y avoir quelque chose qui se trame derrière ça. Par expérience, je trouve que souvent, il y a une thématique d'évitement émotionnel, mais il faut aller investiguer parce qu'il peut y avoir quand même d'autres explications possibles, peut-être à chercher au niveau du système de l'attachement, il peut y avoir plusieurs choses. Donc déjà se demander, ok, qu'est-ce qui se passe? On va partir du principe qu'il y a une raison quand même pour qu'il y ait de l'ambivalence, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, on va investiguer, et puis ensuite bien sûr, si par exemple tu tombes sur une thématique d'évitement émotionnel, alors on va déployer des outils d'acceptation émotionnelle et aller travailler sur, ok, qu'est-ce qui est si angoissant là-dedans. Par exemple, hein, si je reprends l'exemple tout à l'heure du bénéficiaire qui est en stress parce que, ouais, mais en fait, ça va ressembler à quoi ma vie quand j'aurai démissionné? Eh oui, forcément que ça, c'est une question qui peut générer quand même du stress, hein. Et donc, potentiellement de l'évitement émotionnel. Donc, on se demande, derrière cette ambivalence, qu'est-ce qui se passe pour que ça génère des comportements de ce type-là? Observer un peu le focus attentionnel à la fois du bénéficiaire, à la fois le tien, pour voir un peu comment ça se dispatche et comment vous vous entretenez là-dedans, potentiellement, et potentiellement surtout comment on aggrave la situation dans cette espèce de cercle vicieux. Voir également au niveau du locus de causalité, est-ce que mon bénéficiaire est en phase, est aligné avec la question de sa responsabilité et de son autonomisation dans l'accompagnement? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de déresponsabilisation dans son ambivalence, en mode, voilà, je veux que ça change, mais vas-y, fais-le toi, c'est ton boulot d'accompagnant, moi j'ai pas envie de toucher à quelque chose, ok? Donc il peut y avoir plein de choses hein, derrière ça, on peut questionner évidemment le sentiment d'impuissance, je veux que ça change, mais je ne suis pas capable de le faire changer. Donc, je m'occupe de rien, ok? Donc il peut y avoir plein d'axes de travail, je pense que venir questionner par l'analyse transactionnelle, par exemple, les scénarios de vie, ça peut être intéressant, hein. Notamment dans les scénarios de vie, t'en as un qui est « j'y arrive presque ». Mais du coup, j'y arrive pas, hein. C'est la suite du truc. Donc forcément, si j'ai un scénario de vie qui dit « j'y arrive presque », on peut se retrouver par exemple avec de l'ambivalence. « J'y arrive presque ». Alors, je veux que ça change, mais je peux pas le changer. Voilà. Donc, on peut venir questionner le scénario de vie, on peut venir questionner l'impuissance, etc. Dans tous les cas, il faut, je mets ça dans la grande famille de la responsabilisation, en tout cas, il faut que mon bénéficiaire se sente responsable et se sente autonome dans l'accompagnement. Donc, ça dépend de lui, hein, forcément, si il y a une position victimaire, par exemple, il va falloir travailler là-dessus. Mais ça dépend aussi, bien entendu, de toi en tant que professionnel de l'accompagnement. Est-ce que moi, je ne le maintiens pas dans une forme de déresponsabilisation? Est-ce que je ne le maintiens pas dans une forme de non-autonomie, enfin de dépendance, du coup, vis-à-vis de moi, tu vois? Par exemple, on en reparlera dans l'épisode suivant de GDA, dans l'accompagnement qui dure. Hein, l'accompagnement qui dure, ou peut-être, sans m'en rendre compte, je rends le bénéficiaire dépendant. Et donc, je le rends pas autonome. Et donc, forcément, je le rends un peu moins responsable. Et donc, je pourrais, selon le profil du bénéficiaire, le rendre d'autant plus ambivalent. Bref, je pense que t'as compris l'idée, ok? Ça, c'est le principe d'analyse transactionnelle. C'est forcément, si moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, je suis dans la posture du parent, et pourquoi pas dans la posture du sauveur, hein, du parent nourricier. Si je me mets moi dans la posture du sauveur, alors j'assigne forcément mon bénéficiaire à être dans l'archétype de l'enfant. Or, l'archétype de l'enfant est un archétype déresponsabilisé, donc potentiellement ambivalent. Potentiellement. Voilà ce que j'avais à te dire sur la question de l'ambivalence. En tout cas, il y a plein de choses à faire, hein. On voit, on peut travailler sur le focus intentionnel, sur le locus de causalité, sur le sentiment d'impuissance, sur le scénario de vie. Bref, il pourrait y avoir plein d'outils. Quoi qu'il en soit, ça va consister à, petit 1, voir qu'est-ce qui se passe derrière, et petit 2, relancer la capacité d'action, de résolution de problèmes, de responsabilisation et d'autonomie du bénéficiaire pour qu'il sorte de cette ambivalence-là, ok? Et bien évidemment, comprendre à quoi elle sert, hein, cette ambivalence, parce que malgré tout, si elle est répétée, c'est que ça doit bien servir à quelque chose, à la fois au bénéficiaire et à la fois au thérapeute ou au professionnel, et en tout cas à l'interaction qui se joue entre vous deux. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et pourquoi pas à le partager à un de tes collègues professionnels de l'accompagnement qui se retrouvent souvent avec ces problématiques-là ou qui pourraient être intéressés en tout cas de les creuser. Moi, je te dis d'ores et déjà à demain pour le 7e épisode de Galère d'accompagnant où on parlera justement du danger de l'accompagnement qui dure trop longtemps. On parle de tout ça demain matin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.